18h30, ici à Paris, au menu du débat du jour ce soir, Donald Trump et l'outrance.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et pour camper le décor, voici en quelques phrases le bilan des dernières 24 heures du président américain. Donald Trump a évoqué la possibilité que l'Ukraine devienne, je cite, « russe » un jour. Il a promis, je cite encore, « un enfer » si le Hamas ne relâchait pas tous les otages israéliens d'ici samedi. Enfin, il a signé un décret pour revenir aux pailles en plastique, à rebours de toute politique environnementale, tout cela donc en une journée, et alors qu'il y a une semaine, et l'émotion est encore forte après cette proposition de transformer Gaza, souvenez-vous, en Côte d'Azur du Moyen-Orient. Notre question ce soir, Donald Trump, jusqu'où ira l'outrance ? Le président américain joue sur l'outrance pour faire passer ses mesures, mais à quel moment la communauté internationale doit s'alarmer de cette situation ? Pourquoi est-ce qu'elle ne réagit pas davantage aujourd'hui ? Sur quoi tout cela peut-il déboucher ? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Jérôme Viala-Godefroy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en civilisation américaine, spécialiste de la rhétorique présidentielle. Votre ouvrage, Les mots de Trump, on va en parler. Face à vous, Éric Bertin, bonsoir.
Bonsoir.
Sémioticien, maître de conférence à l'université de Limoges, membre du centre de recherche sémiotique et enseignant à Sciences Po. Et notre troisième invité est en ligne avec nous, c'est le correspondant de RFI à Miami. Bonsoir David Thompson.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Jérôme Viala-Godefroy, première question, parce que là on a un peu plus de trois semaines après l'investiture de Donald Trump. Déjà ce début de mandat, qu'est-ce qui vous inspire ? Est-ce que vous trouvez que Donald Trump est plus radical que lors de son premier mandat ?
Il est beaucoup plus radical, surtout il est beaucoup mieux préparé. Et on le voit dans le nombre de décrets présidentiels qu'il a pu prendre. Et puis, il a un entourage. Il a nommé des gens très, très rapidement et des gens qui sont des idéologues et qui ont préparé la venue au pouvoir des Républicains, hein, notamment des gens du projet 2025, Roosevelt, par exemple. On en reparlera peut-être. Donc voilà, on a quand même une équipe qui est beaucoup plus cohérente. Et on a aussi une grosse différence, c'est Elon Musk également, ouais. Hein, avec vraiment une déconstruction de l'appareil fédéral à un niveau qu'on n'a jamais vu, et y compris avec des décrets qui sont considérés comme étant inconstitutionnels. Ouais. Par exemple, la remise en cause du droit du sol avec le 14e amendement, qu'un juge a déjà, deux juges d'ailleurs, ont déjà déclaré que, officiellement que c'était un abus de la Constitution. Donc, il va falloir voir. On a aussi une petite musique en ce moment que je trouve assez inquiétante, et on en reviendra parce que c'est totalement lié à notre sujet, qui est de dire, finalement, les juges n'ont pas le droit de limiter le pouvoir de l'exécutif. Et beaucoup se demandent en ce moment si on ne va pas avoir un Donald Trump qui risque de refuser d'appliquer les décisions des juges.
Il va y avoir une grande bataille. Ça renvoie à un débat qu'on a fait récemment sur les contre-pouvoirs de Donald Trump. Évidemment, exactement. Il va y avoir une grande bataille suite à ses mesures, suite aux décrets, les nombreux décrets qu'il a pris dès son investiture.
Et un parti républicain qui est vraiment le parti de Trump aujourd'hui, ouais. Ce qui n'était pas le cas en 2017.
Vous diriez qu'il est plus radical sur le fond ou sur la forme aujourd'hui ? Et à quel point les deux vont ensemble, selon vous ?
Je pense que sur les deux, parce que par exemple, il a cette... dans le discours d'investiture, il a dit cette phrase qui est intéressante de voilà, je suis béni par Dieu parce qu'il a été sauvé par Dieu lors de l'attentat cet été. Et donc je pense qu'il a le fait qu'il y ait eu toutes ces épreuves judiciaires et autres qu'il a subies, qu'il en est sorti vainqueur, il se sent d'autant plus fort et d'autant plus sans contrainte et sans limite. Et je pense que là, c'est un doublement de son ego, on va dire.
Ça a encore plus libéré Donald Trump. David Thompson, est-ce que vous partagez cet avis, vous qui avez suivi la campagne de Donald Trump pour RFI ? Est-ce que la tentative d'assassinat, comme le dit Jérôme Viala-Godefroy, qui a visé Donald Trump, elle a été un tournant dans ce qu'il est aujourd'hui, selon vous ?
Oui, absolument. Elle a été un tournant. Beaucoup disent que ça l'a d'ailleurs changé lui-même. Et c'est juste après cette tentative d'assassinat. On se souvient qu'Elon Musk a décidé de le soutenir officiellement. Et ça a été un grand tournant de la campagne, à un point douté. Et dans le discours de tous les gens qui ont voté pour lui, quand on les croisait dans les meetings, dans les réunions, on voyait bien à quel point tous avaient été impressionnés par ce fameux moment, la réaction de Trump où il s'est levé, le poing levé comme ça, et qu'il a crié fight, fight, fight. Ça, c'est devenu un slogan de campagne. campagne et ça a changé la campagne. Oui, Trump est mieux préparé. Trump 2.0 fait ce que Trump 1.0 n'a pas pu faire et il a l'impression d'avoir ce mandat populaire qui presque l'oblige à faire tout ce qu'il fait, ce que nous on appelle ce soir outrance, le peuple MAGA, Make America Great Again, cette foule pro-Trump, ne l'appelle pas outrance, elle l'appelle bon sens, et lui il appelle justement ça une révolution du bon sens. Il teste le pouvoir exécutif, quitte à rentrer dans une crise constitutionnelle, parce qu'effectivement il a dit hier avec son vice-président J.D. Vance qu'il n'avait pas l'intention à demi-mot, mais c'est presque ce qu'il a dit, de respecter les décisions de justice qui entravent ses ordres exécutifs. Donc on a un Trump qui est beaucoup plus confiant, beaucoup plus déterminé, et effectivement qui est entouré de tout un tas de personnes qui sont préparées, qui ont pensé ce projet et qui le déroulent. Et pour terminer, ce que disent les partisans de Trump aujourd'hui, c'est « mais attendez, il fait exactement ce pourquoi il a été élu ».
Je vais donner la parole à Eric Bertin, mais je voudrais vous faire rebondir, Jérôme Villa-Godefroy, sur ce que vient de dire David Thompson, c'est-à-dire que ce qu'on évoque l'outrance, nous, vu en dehors des États-Unis, l'opposition aux États-Unis peut aussi voir ça comme de l'outrance, la communauté internationale voit ça comme de l'outrance, ses supporters voient ça, nous dit David Thompson, comme du bon sens. Est-ce que ses supporters voient ça comme du bon sens quand Donald Trump, alors c'était pendant la campagne américaine, les migrants mangent des chiens et des chats. Encore une fois, je vous ai dit, c'est pas plus tard qu'hier. Peut-être que l'Ukraine, alors c'est une guerre qui dure depuis bientôt 3 ans, peut-être que l'Ukraine deviendra russe un jour, il dit, comme ça. Et puis évidemment, quand il évoque sa proposition de Gaza sous contrôle américain, qui deviendrait une côte d'Azur du Moyen-Orient.
Alors c'est là où on a une petite différence, c'est sur l'implication internationale, une forme d'impérialisme quand même qui se met en place au moins dans le discours pour l'instant. Donc il va falloir voir, ça c'était pas du tout justement dans la campagne, mais par contre, quand il parle des chats et des chiens ou qu'il parle de choses assez outrancières, effectivement, soit vous avez des électeurs qui se disent « c'est pas très grave, c'est du Trump », mais de toute façon, dans le fond, même si c'est pas vrai, il a quand même raison. Soit vous avez des gens qui se disent, bah oui, qui peuvent adhérer, hein, qui sont quand même très minoritaires. Mais sur le fond, en fait, c'est qu'est-ce qu'il dit quand il dit que les immigrés mangent des chats et des chiens? C'est que ce sont des gens dangereux qui vont s'attaquer à vous, que ce sont des gens pas comme nous. Voilà. Et ça, ça correspond à ce que croit une majorité de son électorat et même une bonne partie des Américains. La question de l'immigration, elle était centrale. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'en on n'est pas sur ces sujets-là en ce moment. Ça l'était au tout début, mais là, finalement, les arrestations sont pas plus élevées que ce qu'il y a eu sous Obama en ce moment. Voilà, il faut regarder ce qu'il y a derrière aussi.
Il y a un décalage entre ce qu'il fait et ce qu'il dit.
Ah oui, tout à fait. Il fait de telles promesses que de toute façon, il y aura un décalage et que ce côté outrancier, c'est justement aussi ce qui cache un petit peu certaines choses et ce qui permet d'amener le récit sur ce qu'il a envie.
Éric Bertin, l'œil du sémioticien à présent sur cette opposition outrance-bon sens. Parce que vous avez signé une tribune dans Le Monde au moment de l'élection de Donald Trump en novembre 2024, dans laquelle vous expliquez finalement que Donald Trump a brisé les relations de cause à effet. Et vous citez, c'est intéressant, le fameux « si alors » dans la relation de cause à effet. Je pense que ça détermine beaucoup de choses sur la politique de Trump aujourd'hui, et vous allez pouvoir nous expliquer. Si Donald Trump est condamné, il perdra sa légitimité électorale. Et évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé.
Ben oui, je crois que le sens de la provocation de Trump et de ses gesticulations, ça va bien au-delà simplement d'enjeux de langage, en fait, d'enjeux d'exagération. Ça, c'est un peu c'est la surface stylistique qui donne un style à son expression, de la même manière que ça donne un style à l'expression de Musk. Mais en réalité, il menace ce qui nous permet à nous de produire un sens commun, de produire une interprétation face à des situations, face à des événements politiques ou autres d'ailleurs. Mais c'est ce qui nous permet d'avoir une interprétation commune sur des événements. Et c'est effectivement, c'est le principe de non-contradiction, c'est le principe de cohérence, le principe de vraisemblance. Lui, il transgresse en permanence ces principes-là qui nous permettent d'attribuer un sens commun à des situations. Et on le voit bien. Quand il a cette accusation sur les migrants qui mangent les animaux de compagnie, dans l'imaginaire collectif, cette affirmation vaut ensuite une sanction électorale. C'est-à-dire, il serait à cause de ça privé du soutien électoral, du vote des migrants. Et en réalité, il n'en est rien.
Ouais.
Il récupère une grande partie du vote des migrants.
Mais comment on peut l'expliquer, ça? Ça paraît tellement paradoxal.
Eh bien, en fait, dans cette histoire-là, je pense qu'il y a il y a plusieurs choses qui sont en jeu, à mon avis. Hein. La première, c'est que c'est un peu la stratégie du maillon faible. C'est-à-dire qu'en faisant ça, il porte un coin dans une idée qui est très largement répandue dans l'opinion publique, je dirais, internationale. C'est l'idée de l'impuissance du pouvoir politique traditionnel. Des pouvoirs politiques traditionnels à changer la réalité, à avoir une prise sur le réel.
Ça, c'est la traditionnelle confrontation avec les élites.
Mais c'est ça.
L'establishment.
Et exactement. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très important dans la façon de Trump, justement, de dynamiter ses croyances et de montrer à chaque fois par ses actions, ses réactions, ses comportements langagiers, que ce système politique est à bout de souffle et qu'il est impuissant à changer la réalité. Alors que lui, à travers, au fond, son jeu constant d'affirmation et de négation, que ce soit suivi d'un effet direct ou pas, en fait, il dynamite en permanence
Il casse toute référence que l'on a finalement, tout jugement que l'on connaît.
Oui, c'est ça. En fait, il rend imprévisible toutes les situations. Ouais. Vous savez, nous, notre manière de produire le sens comme ça, il est lié sur des enchaînements qui sont prévisibles.
Ouais.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Si Trump est condamné au pénal, ensuite, il perdra une partie du soutien électoral. Ouais. Si Trump menace la presse, il n'aura pas le soutien des grands journaux, notamment les grands journaux et les médias démocrates. Et en fait, à chaque fois, ça, c'est remis en question. Donc, en fait, quand il fait ça, Trump, je pense qu'il réactive une partie de la culture populaire qui est très importante, mais qui existe depuis des siècles. Hein, ça va chercher dans le Moyen-Âge, dans l'Antiquité, où, en fait, très régulièrement, les autorités établies, les pouvoirs religieux, pouvoirs politiques, sont pris dans des fêtes, c'est des rituels, hein, où on met en jeu une inversion des hiérarchies.
David Thompson, vous avez suivi l'évolution de la campagne de Donald Trump. Quelle est votre lecture, vous? Alors, on a eu l'œil de, évidemment, Eric Bertin, mais en tant que journaliste correspondant à Miami de RFI, quelle est votre lecture sur le fait que le vote des minorités en faveur de Donald Trump a progressé alors qu'il a eu ses propos qu'on peut juger outranciers sur les migrants?
Alors, il faut regarder exactement chez les minorités où est-ce qu'il a progressé principalement. C'est vrai qu'il a un peu grignoté du vote afro-américain masculin les hommes noirs pro-Trump, enfin qui votaient pour Trump, que j'ai pu rencontrer, et ça correspondait un petit peu aux enquêtes d'opinion, expliquaient qu'ils votaient pour lui. Déjà parce qu'ils avaient été influencés par l'image, la représentation de Trump dans les réseaux sociaux, quelqu'un de drôle, quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui amuse, et en même temps il y a cette figure du businessman, cette figure populaire qui existe dans l'imaginaire populaire américain depuis presque toujours, finalement, depuis pour les gens qui sont nés dans les années 60, ils ont grandi avec lui dans les années 70, même donc c'était pas énorme. Là où il a vraiment grignoté, il a fait plus 8% entre 2020 et 2024 chez les latinos. Ouais. Et là, il y a véritablement une bascule qui s'est jouée chez les latinos. Il a 43% des latinos ont voté pour lui, 48% des hommes latinos ont voté pour lui. Des gens qui vont voter démocrate aux dernières élections ont basculé. Et il faut pas minimiser la faillite de la campagne démocrate, la faillite du message démocrate, qui sont allés, c'est ce que disent les gens qui ont fait ce chemin politique, trop loin sur les questions sociétales, trop loin sur les questions progressistes, les questions trans. Les démocrates ont énormément mis ça en avant, alors que ça représente un tout petit nombre d'électorats aux États-Unis. Et ça a servi de puissant carburant, notamment dans les écoles, qui sont devenus un vrai champ de bataille politique pour les républicains. Ça a été un puissant carburant, un levier de mobilisation en faveur de Trump. Donc ça a beaucoup joué. Et puis voilà, les républicains ont été meilleurs que les démocrates pour le contrôle du récit, ouais. Pour dire voilà, avec Trump vous aviez plus d'argent dans la poche. Les gens ont cru.
Alors ça c'est intéressant sur l'argent. J'avoue que
fait, ce qui est intéressant, c'est je pense qu'il y a aussi cette idée de la force et de la puissance. Si on regarde en fait dans l'opinion qu'avaient les électeurs des deux candidats, le différentiel le plus important dans l'image qu'on en avait, c'était sur la force et la puissance en faveur de Donald Trump. Pour l'honnêteté, évidemment, c'était Kamala Harris, etc. Il y avait un nombre de mais sur la force et la puissance. Or, c'est quelque chose qui est extrêmement important, notamment en période vue comme étant une période de crise. On a encore des restes du Covid, enfin voilà, plein d'éléments. Donc, cette force et cette puissance. Et moi, ce que je dirais, c'est que Donald Trump, il incarne aussi quelque chose qui est très populaire dans les médias américains, dans les séries américaines depuis une vingtaine d'années, c'est l'anti-héros. C'est-à-dire celui qui se comporte mal, mais qui incarne la force et la puissance pour finalement quelque chose qui sera bien au final, mais qui le fait de manière immorale, ouais. Ou en tout cas amorale, mais souvent immorale. Et il y a ce sentiment de puissance, ça plaît énormément, parce que effectivement, il fait tout exploser, il y a une jouissance, mais il n'est pas vu comme un homme politique normal.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser, pour rebondir sur ce qu'a dit David Thompson, un mot-clé, businessman. C'est souvent répété dans un pays où le capitalisme est roi. Est-ce que ça rend Donald Trump, finalement, certes président, mais pas politique.
Alors c'est pas juste
et donc ça lui permet de faire passer davantage des propos qu'on peut juger outranciers.
Oui, mais c'est pas juste le businessman qui a réellement réussi, c'est le businessman de The Apprentice, c'est celui qui a été dans cette émission de télé pendant une bonne dizaine d'années sur NBC où il présentait une image et un récit qui était l'homme qui réussit et qui donnait les bons points, qui décidait qui sortait, qui rentrait, qui était là et il représentait effectivement ce succès et il a su en jouer très très bien, mais c'est pas la réalité nécessairement de son succès, mais plutôt l'image qu'il en a donnée. Et il est passé, des millions d'Américains l'ont connu comme ça en fait, plus par l'émission de télévisuelle que par la réalité par le fait que c'était un businessman de New York finalement.
Donald Trump, jusqu'où ira l'outrance? La question qu'on pose ce soir, car évidemment les phrases chocs se multiplient hein, concernant le président américain en à peine 3 semaines de début de second mandat. Celle qui a beaucoup choqué l'opinion publique et qui a été beaucoup relayée, c'est sa proposition de transformer Gaza en Côte d'Azur du Moyen-Orient, mais pas plus tard qu'hier, Donald Trump a évoqué la possibilité que l'Ukraine devienne, je cite, « russe » un jour. Mes 3 invités sont Jérôme Viala-Godefroy, docteur en civilisation américaine, spécialiste de la rhétorique présidentielle, auteur du livre « Les mots de Trump », Éric Bertin, sémioticien, maître de conférences à l'Université de Limoges, membre du Centre de recherche sémiotique et enseignant à Sciences Po, et David Thompson, qui est le correspondant de RFI à Miami. Éric Bertin, je vois que vous vouliez réagir, mais je voudrais vous poser une question. Donc la question, c'est jusqu'où ira l'outrance? Est-ce que vous êtes surpris par les réactions de la communauté internationale aux propos, mesures, décrets pris par Donald Trump aujourd'hui? Est-ce que vous les trouvez ténus?
Ben oui, je les trouve timides. Ouais. Timides et ténus, mais parce que justement, Donald Trump, il est en train de dynamiter les catégories du politique en général et les catégories du langage politique. Donc, en fait, c'est deux rationalités qui s'opposent. Il y a la rationalité qu'on connaît, nous, qui est la rationalité discursive, qui est lié au régime démocratique, vous savez, où dans une communauté internationale de régime démocratique, on fonctionne avec des codes qui sont fondés sur la nuance, la capacité à être dans le conditionnel, dans l'éventualité, à concéder. Quand on veut affirmer quelque chose, on concède aussi quelque chose à son adversaire. Donc une sorte, on est dans des formes de négociation rhétorique qui sont extrêmement codifiées et qui obligent sans cesse à prendre des précautions. Et Trump, lui, il fait du bowling. Il arrive et il fait un strike à chaque fois parce qu'il dynamite les catégories qui existent et il crée, c'est comme un effet de souffle en fait, ça crée un effet de sidération à chaque fois qui rend très très difficile une, une réaction
appropriée
et efficace. Et c'est vraiment...
Est-ce que c'est le moment où on parle de la fenêtre d'Everton? Et est-ce que c'est appliqué à Donald Trump? Fenêtre d'Everton, on tape le plus haut possible, dans l'outrance par exemple. Alors, Donald Trump, il va proposer justement de transformer Gaza en Côte d'Azur du Moyen-Orient. Ah bah, toute proposition concernant le Proche-Orient sera acceptable dès lors qu'il a fait cette phrase aussi choc que ça.
Oui, alors je pense qu'il y a un autre aspect là-dedans. C'est là-dessus que je voulais rebondir tout à l'heure. Hein, dans ces outrances qui ne sont pas que langagières, il y a aussi un registre qu'il utilise beaucoup, qui est le registre de l'analogie, au fond. C'est-à-dire que, et c'est là encore une manière de dynamiter la culture des élites versus la culture populaire, quand le sujet le plus grave, en fait, lui, il va le traduire dans une autre catégorie. C'est-à-dire, quand il parle de Gaza, il va prendre des catégories qui sont celles de la promotion immobilière et du tourisme et des vacances. Hein, parlant de la Riviera, etc. On va, et accessoirement, il reformule ça dans les catégories du management. Donc, ça permet des effets de dédramatisation, hein, quand il dit, on va faire du bon boulot.
Ça revient au businessman.
Ça revient exactement au businessman que vous évoquiez tout à l'heure. Donc, quand il fait ça, en fait, ce langage de traduction, ben, ça a deux effets. Ça lui permet de revaloriser la culture des petits, puisqu'il est immédiatement proche du peuple, et de délégitimer encore plus l'univers politique traditionnel, qui n'est pas capable de s'exprimer comme ça.
David Thompson, je m'adresse au journaliste que vous êtes, correspondant de RFI à Miami. Est-ce que un journaliste aujourd'hui qui suit la politique américaine, comme c'est votre cas, doit relayer tout ce que dit Donald Trump? Ou est-ce qu'il y a une limite? Quelle limite? Comment relayer?
Alors là, beaucoup de questions. Là, on est au cœur d'une des stratégies de Donald Trump qui a été forgée dès 2016 par son ancien et toujours actuel conseiller Steve Bannon, qui tient en trois mots flood zone, c'est-à-dire inonder l'espace public. C'est une stratégie qui a été forgée par Steve Bannon, ce qui est très simple, qui est de dire il faut les médias sont trop paresseux, nous sommes trop paresseux pour suivre tout ce que quand ça va trop vite, donc il faut en profiter et il faut faire pareil avec l'opposition, c'est-à-dire qu'il faut saturer l'espace public de décisions, de déclarations outrancières, de façon à ce que le camp d'en face, puisque Trump considère les médias comme le parti de l'opposition et l'opposition du Congrès, les positions démocrates, il faut l'inonder pour qu'elle puisse suivre et qu'elle n'ait pas le temps de réagir à chacune des propositions. Et c'est vrai, c'est ce qui se passe. Trump, en tant que journaliste, Trump signe un décret, on n'a même pas le temps de le digérer, qu'un autre décret encore plus extraordinaire tombe. Pour autant, il faut pas imaginer que tous ces décrets ne soient le fruit que d'une volonté d'outrance gratuite. Tout ça correspond à des programmes, à un programme sur lequel Trump a été élu. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout ce que Trump dit et tout ce que Trump fait, il a l'intention de le faire passer. Qu'on parle des pailles, l'interdiction des pailles en plastique, ou le nettoyage ethnique de la bande de Gaza.
Donc, ça réduit finalement, quand je demandais à Jérôme Villegodefroy, est-ce que Donald Trump fait tout ce qu'il dit, finalement, la limite, elle n'est pas si large. Hein.
Oui, mais c'est pas. En fait, ce qui est important, c'est le récit qu'il va en faire. Et même s'il n'arrive pas à faire tout ce qu'il dit, il va faire le récit qu'il le dit et qu'il le fait. Enfin, voilà, il a gagné les élections 2020 alors qu'il les a perdues. Et peu importe la réalité. Et en fait, alors il y a un autre élément aussi qui est très important et qui est très nouveau à ce point, c'est la violence. Alors, il y a une rhétorique de violence qui est très forte parce que vous parliez aussi de la réaction internationale, mais il faut dire aussi que il y a une intimidation. Il joue sur l'intimidation et il est maintenant à la tête du pays le plus puissant du monde. Donc forcément, c'est difficile de se le mettre à dos. Surtout que, si c'est pas les États-Unis, c'est quoi? C'est la Chine. Enfin, voilà. Donc,
à quel moment, pardon, la communauté internationale, cependant, s'alarme, réagit, s'indigne, condamne? Encore une fois, on ne va pas reciter toutes les phrases choc de ces dernières semaines qui ont de quoi heurter beaucoup de monde. Je vais citer la sénatrice démocrate du Massachusetts, Elizabeth Warren, qui a dit ceci: « Ce qui se passe n'a rien de normal. Nous vivons un cauchemar créé par Donald Trump et Elon Musk et nous devons nous réveiller. » Alors, c'est l'opposition démocrate qui parle. On sait qu'elle est très peu entendue, très peu présente actuellement aux États-Unis. Mais si ce n'est pas l'opposition démocrate, est-ce que ça peut être la communauté internationale? Encore une fois, est-ce que Trump peut dire n'importe quoi, peut tout dire.
Mais il peut tout dire. La communauté internationale n'a aucune prise sur Donald Trump, d'autant plus qu'elle est divisée, de toute façon, y compris l'Europe. Donc, ça va être très compliqué. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que là, en ce moment, aux États-Unis, je parlais de cette violence, les contre-pouvoirs à l'intérieur des États-Unis, par exemple, le Congrès, notamment le Sénat, est en train de vraiment s'aplatir devant Donald Trump. Non seulement parce qu'ils ont peur de perdre les prochaines élections, parce que Elon Musk a promis de financer des opposants dans les primaires, mais aussi parce qu'ils ont peur physiquement. Ils reçoivent des lettres de menaces, leurs familles sont menacées. Ouais. Et on le sait, enfin, il y a des preuves de ça. Donc il y a une intimidation sur ce plan-là. C'est un peu des techniques de mafieux, hein, donc en réalité. Et donc on voit que les contre-pouvoirs, ben, pour l'instant, on a le contre-pouvoir des juges. Il y a les médias aussi qui font leur travail, mais il y a une attaque en règle contre les médias. Tentative de définancement de tout ce qui est public comme NPR et PBS. Il y a des attaques contre les médias privés. Il y a des plaintes qui ont été faites par Trump qui les menacent de millions de dollars pour se venger de notamment le débat qu'il y a eu avec Kamala Harris qui disait qu'il pense être trop subjectif. Voilà, donc tous les contre-pouvoirs maintenant. Après, on va voir ce que va faire la rue, les gens.
Ouais.
Quand les questions notamment économiques ça va peut-être pas être comme il le voudrait.
Mais ce qu'il va faire aussi, lui, de la rue, si les gens se mobilisent, c'est aussi un autre sujet.
Exactement.
Éric Bertin, on est en train de répondre à la question de notre débat, jusqu'où ira l'outrance. Donald Trump peut tout dire, nous dit Jérôme Villa-Godefroy, et vous aviez acquiescé.
Oui, moi je pense qu'il est maintenant, là, il incarne une forme de pouvoir totalement hors de contrôle. C'est-à-dire, c'est la puissance sans limite, on appelle ça l'ubris, mais il incarnait déjà ça. Sauf que maintenant, il le fait dans la réalité. Et moi, ce qui me frappe, c'est que, vous savez, on a toujours l'habitude de dire, d'accorder une importance très, très importante, voire même on réduit le politique au storytelling, c'est-à-dire à la capacité à écrire un récit. Et moi, ce qui me frappe en ce moment, c'est qu'avec Trump, il me semble qu'on a quitté le registre du storytelling. C'est-à-dire que ce qui se produit en ce moment, c'est un enchaînement de déclarations, de décisions qui sont très intempestives, qui ne visent pas du tout à façonner les imaginaires, comme le fait un récit traditionnel. En fait, c'est une contre-proposition de réalité. Hein ? C'est une proposition c'est une contre-réalité qu'il essaye, qu'il a la possibilité d'installer.
David Thompson, le mot de la fin, correspondant de RFI à Miami. Finalement, Donald Trump, on parle d'outrance, il ne fait qu'appliquer son programme et ça va durer 4 ans.
Ça risque de durer au moins 2 ans, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer lors des prochaines élections de mi-mandat. S'il perd la majorité à la Chambre, ça peut le freiner, comme ça l'avait freiné en 2018, quand il avait perdu cette majorité à la Chambre de son premier mandat. Mais ce qui est sûr, c'est que là, pendant 2 ans, ce que disait encore une fois, je vais citer son conseiller Steve Bannon, il disait là, c'est le choc et l'effroi depuis ces 3 semaines, mais ça va durer. Ça va durer effectivement, et ça va être comme ça tous les jours. Et ce n'est que le début, ce n'est qu'un tour de chauffe. Et donc, ils ont l'intention de changer la nature des États-Unis, le régime américain, le régime politique. C'est ça qui est en train de se passer sous nos yeux. Les États-Unis sont en train de se transformer politiquement. On change de régime. C'est une bascule et l'opposition démocrate on est réduite à une sorte de statut de témoin de cette situation, impuissant, puisque l'opposition n'a pas de leadership, elle n'a pas le soutien populaire derrière elle. Donc elle est condamnée à l'impuissance et elle est absolument inaudible. Donc, évidemment, ça renforce le sentiment de toute-puissance de Donald Trump.
Et donc, une opposition inaudible, une communauté internationale qui ne se mobilise pas, qui ne peut pas vraiment se mobiliser, ce que vous disiez, Jérôme Villa-Godefroy, parce qu'évidemment, elle a face à elle le président des États-Unis et c'est compliqué de répondre frontalement à la première puissance mondiale. Merci beaucoup, on a répondu à notre question jusqu'où ira l'outrance de Donald Trump ce soir. Merci beaucoup à vous trois. David Thompson, correspondant de RFI à Miami. Éric Bertin, sémioticien, maître de conférence à l'université de Limoges, membre du centre de recherche sémiotique et enseignant à Sciences Po, et Jérôme Villa-Godefroy, docteur en civilisation américaine, spécialiste de la rhétorique présidentielle, auteur du livre Les mots de Trump. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat, Hélène Avril à sa réalisation, merci à la documentation de Radio France Internationale. Restez à l'écoute, dans 30 secondes, le grand journal du soir, avec un dossier en direct de Jérusalem, après que le Hamas a annoncé le report des prochaines libérations d'otages israéliens. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, vient de répondre au Hamas. Restez à l'écoute.